tellement de ressources à faire ça que, à la fin, ce serait impossible de faire fonctionner Post-Canada. Après, c'est vrai qu'en plus de ça, il y a des règles justement qui visent à respecter, dans la mesure du possible, la vie privée, le droit des personnes de s'envoyer des lettres, de s'envoyer des enveloppes. Donc les autorités sont en train de fouiller systématiquement sur ce qu'on est en train d'envoyer et de recevoir. Donc Post-Canada va agir lorsqu'il y a un soupçon selon lequel justement il pourrait y avoir des produits illégaux dans un colis. Donc c'est pas quelque chose qui va être fait de manière systématique. Et d'un point de vue, heureusement, parce que on voudrait pas justement un gouvernement qui dit « Ah ben, t'as envoyé quelque chose par la poste, je vais l'ouvrir, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que je veux tout savoir sur toi. » Et puis, finalement, Post-Canada aussi a des ressources limitées comme la police.
C'est particulier quand même qu'on n'ait pas pensé, puis je sais, c'est pas votre spécialité, mais qu'on n'ait peut-être pas eu l'engrenage de penser que Post-Canada, qui est tellement décrié, qu'on se demande pourquoi pour certains ça existe encore, bien que ce soit hautement efficace selon moi à certains niveaux, n'ont pas ce qu'on peut retrouver à l'intérieur des aéroports ou n'ont pas ce qu'on peut retrouver dans le pire des comme à Québec, Jeff Max, là, les caméras infrarouges pour les feux de foyer, mais ouais. Un système de détection, ça passe par quelque part, par des centres, si on avait investi là-dedans pour... repérer certains colis problématiques. Peut-être qu'on aurait eu une avancée là-dedans ou c'est vraiment trop complexe puis finalement, on aurait fait affaire avec un autre système de livraison, vous croyez?
Il peut y avoir toujours des investissements pour des technologies de détection plus sophistiquées. Parfois, c'est même pas nécessaire. Moi, par exemple, je connais très bien le trafic de drogue au Mexique puisque la plupart de mes recherches portent sur les cartels mexicains. Et puis, je peux vous dire que souvent, la technologie de détection la plus sophistiquée, c'est des chiens. Tout simplement des chiens qui sont entraînés et qui vont être capables de détecter même des petites quantités de drogue que les machines les plus sophistiquées ne peuvent pas détecter. Mais même pour pouvoir élever un chien qui va être en mesure de répondre aux stimuli, justement, lorsqu'il sent qu'il y a un produit illégal dans une enveloppe, ça prend de l'argent, ça prend du temps, ça prend des années d'entraînement et puis c'est un animal duquel on doit s'occuper. Pour les technologies, là, les machines, les détecteurs, scanners, parfois c'est aussi des machines qui sont très coûteuses et qui ne vont pas toujours être parfaites. Et puis ça requiert de l'investissement additionnel. Et ça c'est une discussion en fait qui est actuellement très, très, très importante, non seulement pour le trafic de drogue à l'intérieur du pays, aussi pour le trafic de drogue transnational, et même, par exemple, dans le système pénitentiaire, où actuellement, il y a énormément de drones qui rentrent et qui sortent tous les jours, et puis justement, les autorités se disent faut investir sur plus de technologies qui sont en mesure de détecter ce qui rentre, ce qui sort. Donc, il y a cette préoccupation actuellement là, de pouvoir détecter le mouvement de biens, de services et des personnes afin de plus pouvoir contrôler. Mais la technologie peut uniquement donner une partie de la réponse. C'est pas uniquement en investissant de plus en plus en plus en technologie de détection que les marchés illégaux vont s'arrêter de fonctionner.
Valentin Pereda est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. On parlait de la vente de cocaïne et de drogue dure via des plateformes informatiques disponibles sur nos médias sociaux. Monsieur Pereda, merci beaucoup pour vos éclaircissements et au plaisir de se reparler.
Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous, au revoir. C'est fou comment, au niveau de ces transactions de drogue-là qui se font via nos médias sociaux traditionnels, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on se camoufle dans la masse de transactions, autant dans la masse de transactions informatiques que dans la masse, après ça, de colis livrés. C'est toujours qu'on est capable de camoufler notre transaction individuelle, criminelle, dans une masse de transactions qui, elles, sont légales.
Oui, puis l'autre point qui m'inquiète beaucoup, admettons, c'est tout ce qui est pour les jeunes. On le sait qu'ils ont une attirance pour la drogue. L'alcool a moins d'intérêt, mais la drogue en prend beaucoup. À un moment donné, quand tu as essayé certaines, quand tu commences à faire un peu d'argent, peut-être que la cocaïne pourrait être intéressante. Je veux dire, c'est un fléau en ce moment. On ne se mettra pas la tête dans le sable, c'en est un.
Bien, clairement, c'est une drogue qui est très stimulante, donc très attrayante pour la jeunesse.
Puis elle est un peu partout, très honnêtement, et il ne faut pas avoir la tête dans le sable, comme je disais.
En effet.
Puis à un moment, si tu vois de la publicité passer, puis tu dis, hey, j'ai pas affaire avec un pusher, j'ai pas affaire. C'est par le web, je peux commander ça, recevoir ça à la maison, mettre une carte de crédit, même prépayée si jamais. C'est quand même assez facile et non contraignant et t'es pas nécessairement dans la capacité de t'afficher, t'as pas de démarche autre que d'être sur ton ordinateur à faire, moi, je pense que ça peut énormément nuire aussi à cette génération-là. Puis bon, c'est leur divertissement, mais on s'entend qu'au niveau santé, c'est pas top, là.
Ben, je pense pas me tromper en disant que il y a un sentiment de sécurité beaucoup plus fort dans ta transaction en ligne. Puis là, je vais donner l'exemple, t'es quelqu'un de 19 ans qui fait sa transaction en ligne, que je dois sortir de chez nous pour aller dans le parc en arrière du buisson acheter ma drogue au pusher qui est là.
Mais moi, j'aurais la chaîne pareille en ligne de me faire pogner par la police en mettant mon adresse là-dedans.
Écoute, quand la SQDC est arrivée, là...
Le monde payait pas avec leur carte de crédit.
Ben, exactement.
Parce qu'il y avait des affaires de là, tu pourras plus rentrer aux États-Unis s'ils voient que c'est ta carte de crédit, t'as acheté à SQDC.
C'est légal.
C'est vrai.
Ouais, on bat de triper, là.
En effet. Vous en pensez quoi, 418-971-1021, de cette nouvelle réalité de vente de drogue par Internet? Moi, je trouve que c'est un fléau qui peut être très dommageable pour la société. Ça peut créer les toxicomanes de demain, faire des rechutes. Et justement, là, bon, on le sait, lorsqu'on est en toxicomanie, ben après ça, plusieurs problèmes financiers peuvent arriver. On parle d'itinérance, etc.
Là. Et deux problèmes majeurs moi, que je vois là-dedans. Un, c'est l'accessibilité. Mm-hmm. Puis le deuxième problème majeur, c'est assurément le fait de rendre ça normal.
Ouais.
D'avoir une certaine normalité derrière ça. T'sais, le marketing, il l'a dit, puis c'est vrai. C'est des images claires, c'est quasiment attrayant. J'ai quasiment le goût de me mettre à prendre de la cocaïne. Je fais des jokes, là,
mais en effet...
même pas l'air dans l'illégalité. Là. Quand je vois ça, je suis comme, oh, un nouveau produit. Puis je me suis demandé c'était quoi, parce que les inhalateurs, c'est pas présenté sous forme de petits paquets de poudre, là. Comme ça, là, les pubs qui sont faites. Là.
Non, c'est donc bien cool. Tu sais, comme à l'époque, dans les années 70, où c'était cool de fumer à cigarette, là, pour qu'on avait plein de publicités qui amenaient les gens, justement, à consommer du tabac. Là, donc, mais là, on est dans des drogues dures, on est dans quelque chose de très, très, très différent. Après la pause, Pascal, je veux te parler des habitudes alimentaires des Québécois qui sont préoccupantes. C'est un texte de Félix Lajoie dans Le Soleil. Pourquoi je veux t'en parler? Parce qu'on a interviewé Martin Munger lundi, directeur général des banques alimentaires. Et c'est toi-même qui m'avais ouvert la porte là-dessus en disant « Hey, il y a que le panier d'épicerie, les gens s'alimentent moins bien, tout ça. » Ben, t'avais misé dans le mille. Je vais te mentionner quelques statistiques justement rapportées par Félix Lajoie. Des statistiques très préoccupantes ici au Québec qui sont vraiment reliées à l'insécurité alimentaire et au coût du panier d'épicerie. Donc, on jase de ça. Puis, j'ai vu aussi un beau texte dans la presse qui parle de psychiatres qui vont aller dans la rue avec les policiers.
Puis ça fait des années, ça. Puis, il y a eu un projet pilote ici à Québec. Ouais. Je pense qu'il y a 2 ans, je pense, dans leur CV de mémoire, je l'avais interviewé, une des psychiatres doctorantes en plein qui parcourait les rues à Québec ici pour un projet pilote. Puis, ce qu'elle disait, c'est que le suivi qu'ils étaient capables de faire auprès des clients, des usagers, des patients était efficace. Fait que là, on est à quelques années depuis l'implantation du projet pilote. J'ai vraiment hâte.
Ouais, on va faire ça à Montréal, justement. Donc, on parle de ces deux sujets-là après la pause à Boulevard 101 dans Marceau le matin.
Boulevard 101. Marceau. Oui.
Mercredi 7 janvier, précisément 9h12 à la météo. Je le rappelle, très belle journée. Moins 4 degrés, neige intermittente, mais ça va être un petit 2 cm de neige, donc très peu d'accumulation. Moins 1 degré averse de neige pour jeudi. Vendredi, 3 degrés, neige intermittente au puits et 4 degrés Celsius, alternance de soleil et de nuages pour samedi. Donc, on a des températures très clémentes en ce début du mois de janvier. Pascal, lundi, on a parlé avec Martin Munger, PDG des banques alimentaires. Ouais. On voulait lui parler parce que les statistiques sont sorties d'une firme indépendante comme quoi l'insécurité alimentaire va augmenter d'environ 25 % les gens qui ont besoin de banques alimentaires. Ce qui va nous amener en 2028 à 1 personne sur 4 au Québec qui va avoir besoin des banques alimentaires.
Pensez-y, là, 1 personne sur 4. Pensez au nombre de personnes qu'il y a dans votre rue.
Faites le compte. Comme Martin Dallaire le disait si bien, ça nous fait rappeler qu'il y a le conteneur, justement, pour la bouchée généreuse et le patron Rocamado dans le stationnement du 815 Boulevard Le Bourgneuf jusqu'à mardi prochain. Amenez vos denrées non périssables. Ça va directement à ces organismes-là. Et à la suite de cette entrevue-là, c'est toi, Pascal, qui m'avais dit « Hey, Jeff, oui, il y a tout ce principe-là, mais il y a le principe aussi de la saine alimentation. Mm-hmm. » Parce que le panier d'épicerie a tellement augmenté, et tu as raison. Écoute, tantôt, je te disais, à coût de 350-400 piastres d'épicerie par semaine, on ramasse des bonnies dollars pour se payer un comptoir. Mais on s'entend que le comptoir n'a pas été gratis. On aimerait mieux payer la nourriture moins chère du côté de notre famille reconstituée. Mais tu m'avais allumé là-dessus. Alors, j'ai accroché ce matin sur le texte de Félix Lajoie dans Le Soleil où il parle des habitudes alimentaires des Québécois qui sont préoccupantes. On commence tout d'abord avec, justement, la consommation de 5 portions de fruits ou de légumes. Est-ce que tu manges 5 portions de fruits ou de légumes par jour?
J'essaie, mais je pense pas que je rentre là-dedans. Ouais. Mais je me rends compte finalement que des fois, je peux en manger 10, des fois, je peux en manger 3. Des fois,
ben, t'es comme moi, ça dépend des journées. Je pense que je suis aux alentours d'à peu près 4 portions par jour, tu sais, si je fais mon pedigree, ce qui serait quand même, selon moi, très bon. On fixe le pourcentage, normalement, la cible pour le gouvernement provincial, c'est de 50 % de la population qui se doit de manger 5 portions de fruits ou de légumes par jour. Et à l'heure actuelle, tu penses qu'on est à combien dans la population québécoise?
En moyenne?
Oui, en moyenne, en pourcentage.
J'irais avec une à deux portions. Donc, en pourcentage, on doit être à 30 % de gens qui réussissent.
Oui, exactement. On est à 36 % bon. De gens qui réussissent. Donc, c'est quand même pas si mal, mais c'est en bas, justement, de ce qui a été fixé. Par contre, quand on parle des gens qui sont en insécurité alimentaire, donc qui se doivent, justement, d'avoir accès à des banques alimentaires, bien, le pourcentage diminue drastiquement, Pascal, c'est 10 % ouais. des gens seulement. Donc, c'est vraiment... Quand on parlait... En début d'émission avec l'itinérance, c'est de dire on n'est pas tous à la même place, on n'a pas tous les mêmes chances. Mais on s'entend dans le développement de l'enfant, c'est important la saine alimentation. Fait que ça veut dire que sur le 40 % de la population qui est en insécurité alimentaire, ben ça veut dire que 4 enfants sur 10 mangent pas assez de fruits et de légumes.
C'est la base en plus pour le développement à cet âge-là. C'est ouais. une nourriture pour le cerveau, c'est une nourriture pour les fibres du corps, pour tout ce qui conçoit en fait le petit mm-hmm. être humain qui va devenir adulte.
Vraiment.
C'est fou. Puis ça, c'est interrelié avec l'apprentissage, interrelié avec la capacité sportive, donc le fait de bouger, la motricité. Mm-hmm. C'est fascinant. L'alimentation, c'est 80 % de notre santé pour bien des cas. Là.
Exactement. La très grande problématique de notre alimentation, Pascal, tu penses que ce serait quoi?
Ben, l'accessibilité, le coût.
Oui, le coût, l'accessibilité. Mais je veux dire, t'es dans ce qu'on consomme, là, dans les aliments qu'on consomme, tu penses que ce serait quoi la très grande problématique, sais-tu? C'est le sel. On mange trop de sel.
J'aurais pensé au sucre, mais le sel avec les aliments transformés, c'est sûr.
Exactement. Tu mets exactement la main dessus. On mange trop d'aliments transformés. Et pourquoi on mange trop d'aliments transformés? Bien, c'est deux choses. Tu en as parlé, la première, le coût.
Oui.
Les fruits et légumes, les aliments sains sont trop chers. Donc, même les familles moyennes maintenant ne peuvent pas se le permettre. Alors, vont vers des produits qui sont transformés. Et l'autre, c'est le rythme de vie. Non, ce jour, la vie va vite.
Ça va vite, il faut que ça soit prêt,
faut que ça soit
prêt,
on n'a pas le temps, etc., etc. Donc, les gens achètent déjà des mets préparés, des mets préparés qui ont trop de sodium, et ça fait en sorte que, justement, la population s'alimente moins bien.
Puis dans les mets préparés, il y en a des très bons. Tu sais, Jeff, on pense à des compagnies
ben oui.
qui vont prendre des aliments frais, qui vont en faire de la portion de la recette et tout ça. Sauf que c'est beaucoup plus cher.
Exactement.
Dans le temps, nous autres, les mets préparés, c'est les Michelinas là, de ce ouais. monde. Puis je vais les nommer. Mais ceux-là sont rendus des fois à tant pour tant de dollars. Mm-hmm. Ils sont en réduction. Ce qui est moins cher a souvent une moins bonne valeur nutritive parce que justement, on n'utilise pas nécessairement des ingrédients de qualité puis la recette est plus commercialisée. Pour les aliments transformés dans notre vie, là, moi, il y a trois applications que j'ai découvertes dans ma vie au courant des dernières années. C'est Yuka. Donc, on analyse la qualité nutritionnelle, sel, gras, sucre, additifs. Ça donne une note globale, OK? Soit c'est vert, soit c'est orange, soit c'est rouge. T'as Open Food Fac aussi. Ça, c'est assez complet. Puis encore là, tu as un score, mettons, sur ce que tu scannes puis que tu t'évalues. Mais je me suis fait pogner souvent. Souvent, je me suis rendu compte qu'un pain, par exemple, préparé d'une manière X versus un autre, ça devient un aliment transformé, plus néfaste pour la santé versus un autre. Puis là, tu fais des sapristos.
Mais c'est... Non, ça...
On mange plus d'aliments transformés que tu penses. Là.
Clairement. C'est 8 adultes sur 10 au Québec qui consomment plus de 2300 mg de sodium par jour, soit le maximum recommandé pour prévenir les maladies cardiovasculaires. 80 % des adultes en consomme plus. Et ça, c'est quand on parle de notre système de santé qui est engorgé de nos problèmes, c'est le système de santé, bien, la prévention n'est jamais assez mise de l'avant. Et ça, c'est un bel exemple ici avec justement les aliments qui sont transformés.
Puis ce qui me fascine actuellement, il y a comme une grosse tendance aussi. Là, on parle de nutrition. Mettons, on va aller dans les croyances, les fausses croyances, les ci, les ça. Tu sais, il y a des gens qui vont éliminer toute forme de sodium, soit le sel qu'on craque dans une recette, parce qu'ils vont se dire c'est du sodium, c'est pas bon. Mais c'est pas chaque forme de sodium qui est négative.
Exactement.
Puis encore là, c'est comment tu en consommes qui
c'est
va faire
quantité.
Une différence. Exact. Puis dans tes aliments transformés, c'est que souvent, tu vas avoir un haut pourcentage. Fait qu'en deux bouchées de quelque chose ou en une collation et un repas, tu vas avoir dépassé ta limite quotidienne. Mais sinon, ton sel, tu pourras en craquer dans chacun de tes repas, puis ça va te permettre des minéraux.
En plein ça.
Ça va te permettre l'hydratation de ton corps. Puis tu penses que finalement, il ne faudrait pas que tu le fasses.
C'est vraiment une étude très intéressante qui a été produite par Nutri-Québec. Ça a été 6634 adultes québécois interrogés au sujet de leur habitude alimentaire, mais c'est pour la période de 2019 à 2025. Fait que c'est vraiment concret. Ça nous donne vraiment des statistiques très pertinentes, mais à la fois là, très questionnante aussi là, en termes d'alimentation au Québec.
Je pense toujours aux familles justement qui sont en insécurité alimentaire. Ça va grandir. C'est des familles qui travaillent pour beaucoup, 40 heures et plus par semaine, qui, malgré tout, ont besoin de cette aide-là. Puis quand tu arrives à l'épicerie, tu dis soit que j'achète 2-3 choses plus santé ou 10 moins santé, mais que je suis capable de nourrir ma famille tout au long de la semaine. Par contre, il y a tout le temps quelque chose qui paye au bout du compte, puis certaines fois, ben c'est le choix des aliments santé. Ça, je trouve ça difficile.
Ah,
et ces parents-là doivent trouver ça difficile
ben
aussi.
Oui,
là,
c'est clair.
Imagine, je peux en acheter 10 au lieu de 3. Quel choix je vais faire? Soit qu'on mange pas deux jours, soit qu'on mange moins, ou mes enfants mangent...
On va manger, mais on va manger quelque chose de moins sain pour la santé. Mais au moins, on va manger. Et quand tu es rendu
fou,
à ce
là.
Choix-là, ici au Québec, c'est vraiment questionnant. Carl, qui écrit dans les ramen, nous ajoute un ingrédient pour masquer le goût du sodium tellement ils en contiennent. Éric qui mentionne, c'est épouvantable cette statistique-là, en effet.
Oui.
Puis dans le sujet qu'on a parlé avant également, là, j'avais oublié de le mentionner, je veux le mentionner, Martin, c'est un super texto par rapport aux ventes de drogue en ligne où il mentionne, c'est effectivement la normalisation pour les jeunes. Pensons aux vapoteuses qui devaient aider les gens à arrêter de fumer et qui font en sorte que des jeunes sont devenus accro à la nicotine. C'est ce qui est dangereux justement avec ces ventes en ligne-là. Martin a entièrement raison. Je te fais une proposition, Pascal. On va parler des psychiatres dans la rue après la prochaine entrevue qu'on va faire. Parce que il y a un sujet qui passionne les gens. L'intelligence artificielle.
Oui, c'est sur le bout des lèvres de tout le monde.
C'est là, sur le bout des lèvres de tout le monde et c'est sur le bout des lèvres de plein d'entrepreneurs qui disent « Hey, il faut augmenter notre productivité. » Tu sais, souviens-toi, avant les fêtes, on a eu Frédéric Boisvert, le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, qui a dit « Une des problématiques au Canada, c'est qu'on n'est pas assez productif par rapport aux États-Unis. Il va falloir augmenter notre robotisation. Il va falloir augmenter l'intelligence artificielle dans nos entreprises. » Bon, on va parler avec Hugues Foltz. Hugues Foltz, c'est le vice-président exécutif de Vauban. Eux, ils ont créé plein de systèmes d'intelligence artificielle, notamment pour la planification de production dans les usines. Et ça fonctionne très bien. Il y a notamment une entreprise ici de Québec, Cuisine Simard, qui l'utilise et qui a augmenté justement son degré de productivité.
Super intéressant, mais pas aux dépens des employés qu'ils ont. C'est ça qu'on
Exactement, parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent corriger des lacunes humaine par l'intelligence artificielle pour permettre justement un plus gros degré de productivité. Donc, on va parler avec M. Volt au retour de la pause. Et après l'entretien avec M. Volt, on parlera des psychiatres dans la rue parce que moi, ça m'intéresse vraiment. Avec tous les problèmes d'itinérance qu'on vit à Québec et Montréal, les problèmes de santé mentale qui sont de plus en plus présents, je veux qu'on parle de ce sujet-là. Je sais que c'est un sujet qui va nous passionner les deux.
Oui, autant dans l'aide apportée qu'en statistiques rapportées.
Exactement. Donc, Hugues Volt pour l'intelligence artificielle dans nos entreprises après cette courte pause à Boulevard 101 dans Marceau le matin. Marceau.